Toute cette semaine, la Grenouille vous propose d'écouter une série de 5 chroniques sur la défense des droits et libertés sur Internet. Nous sommes allés à la rencontre de Jérémy Zimmermann, porte-parole de la Quadrature du Net, une organisation qui intervient notamment dans les débats concernant la liberté d'expression, le droit d'auteur, la régulation du secteur des télécommunications ou encore le respect de la vie privée.
Dans les locaux de la Quadrature du Net, en compagnie de Jérémy Zimmermann, porte-parole de la Quadrature du Net.
Le micro ici, ça va ?
Le micro ici, tu peux te rapprocher un petit peu ?
Un peu, ouais.
Dans les locaux de la Quadrature du Net, fonds de défense de la net neutralité.
Non. Ça, c'est autre chose, le FDNN.
Ah bon ?
Oui, voilà. On est juste la Quadrature du Net.
Alors, FDNN. On reprend.
La Quadrature du Net est une organisation de défense des libertés sur Internet. Nous sommes une sorte de caisse à outils citoyenne. Nous bâtissons des outils pour permettre aux citoyens de comprendre les processus politiques ou législatifs qui attaquent leur liberté sur Internet, et des outils pour leur permettre de réagir, d'agir, de participer dans le débat public.
Alors la proposition, c'est tu vas nous accompagner toute la semaine pour essayer de comprendre un peu quelques enjeux du web. Et puis nous terminerons cette semaine avec les propositions qui sont proposées par la Quadrature du Net.
Pire que le grand oral de l'ENA, ton histoire. Là.
Dernier moment avec Jérémy Zimmermann pour parler cette fois-ci non des moments, non plutôt offensifs, et des propositions de la Quadrature du Net, donc des propositions plutôt offensives.
Oui, alors, quand on a créé la Quadrature du Net, c'était autour de l'élection de Nicolas Sarkozy, où on voyait très distinctement, pas si distinctement que ça, on le lisait plutôt en filigrane dans son programme électoral, tout son délire sur l'Internet civilisé et la répression sur Internet qui allait forcément porter atteinte à nos libertés. Mais lorsqu'on a créé la Quadrature du Net, on avait fait ce pari, on s'était dit qu'on allait découper notre action en un temps d'opposition et un temps de proposition. Initialement, on s'était dit qu'on allait faire 50-50. Alors en pratique, ça n'a pas tout à fait été le cas. On était plutôt 80% en opposition et peut-être 20% en proposition. Mais dès le début, dès qu'on a agi par exemple sur la DOPI, on a constaté, moi j'ai constaté lorsque j'étais au téléphone avec des journalistes, c'est très marrant comment ça s'est passé sur la DOPI, parce qu'au début il y avait les gens du service culture qui appelaient vite fait, genre oui, alors vous dites machin, vous êtes pour le tout gratuit, mais les artistes il faut bien qu'ils mangent, etc. Et donc ils nous prenaient de très très haut. Et quand à un moment la conversation, ils disaient oui mais vous, qu'est-ce que vous proposez ? Et là je leur disais, écoutez, je viens de vous expliquer que la DOPI c'est une mauvaise solution à un mauvais problème. La définition du problème qui dit le partage c'est mal est à revoir. Mais si on parle d'une vraie question qui est celle du financement de la création à l'ère numérique, alors on a la contribution créative. Ou dans un mécanisme où l'on collecterait de 3 à 10 euros par mois sur les accès Internet au débit, on pourrait répartir de façon transparente, en fonction des usages, en fonction de l'attention portée aux œuvres, entre les auteurs et tous les participants dans la chaîne de la création, un revenu qui s'élèverait pour une somme de 5 euros par mois à 1 milliard par an. Et là, un ange passe au téléphone, le journaliste du service culture se dit « Ah merde, en fait ils sont sérieux ». Et dès le début, on s'est aperçu que quand on formulait des propositions, non seulement ça nous crédibilisait, mais aussi ça renforçait notre message d'opposition. Parce que c'est bien beau de dire « ils se trompent, c'est de la merde, ils font n'importe quoi », mais arriver derrière en disant « et s'ils voulaient faire quelque chose d'utile, ils feraient ça et ça et ça », les met dans une position beaucoup plus inconfortable encore. Mais ça n'est que récemment, je dirais, à vue de nez, fin 2011, il y a un an et demi, que l'on s'est pris, parce que sur tous les dossiers sur lesquels on a agi, on avait comme ça un volet propositionnel. Enfin, il y a quelques temps, on a collecté en fait toutes nos propositions, on a essayé de les articuler dans quelque chose qui ressemble presque à un programme politique, qui pourrait être repris presque tel quel dans un programme politique, et qui articule donc nos propositions selon trois axes. Un, garantir la protection des libertés fondamentales en ligne. Et par exemple, assurer la liberté d'expression, et garantir la liberté d'expression, par exemple, contre cette répression au nom du droit d'auteur, qui parfois vient y porter atteinte. Donc d'un côté, garantir les libertés fondamentales. Deux, garantir l'accès à une infrastructure libre et ouverte, par exemple en protégeant la neutralité du net dans la loi, comme on l'a évoqué il y a quelques émissions. Et troisièmement, maximiser le partage des connaissances. Nous sommes convaincus, ça fait partie des valeurs principales que nous défendons, que le partage des connaissances et l'ouverture sont les valeurs qui permettent d'améliorer nos sociétés grâce à un Internet libre, et qu'il est urgent de les favoriser plutôt que les valeurs de la répression et du contrôle. Et donc voilà, nous avons articulé nos propositions selon ces trois axes. Elles sont presque clés en main. Évidemment, chacune doit être déclinée dans le vocabulaire précis des propositions législatives. Et c'est quelque chose qui doit être fait petit à petit. Mais ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est deux de ces axes que nous avons développés plus que les autres. Un, c'est le volet neutralité du net, où on a participé avec des députés à l'élaboration d'amendements, et on a participé au processus d'écriture d'une proposition de loi avec le député Christian Paul il y a maintenant presque 2 ans. Et la partie droit d'auteur, où nous avons formulé au cours de l'été dernier les 14 éléments pour la réforme du droit d'auteur et des politiques culturelles associées, dans lesquels nous détaillons très précisément des mesures qui sont là pour le coup quasiment directement copiées, collables en mesures législatives, et qui commencent avant tout par la légalisation sans condition du partage d'œuvres numérisées entre individus sans but de profit, et à partir évidemment du moment où ces œuvres ont déjà été divulguées par leur auteur. Il ne s'agit pas d'autoriser la diffusion d'œuvres qui ont été volées à leurs auteurs. Mais ce que l'on dit, c'est qu'une fois que l'œuvre a été divulguée au format numérique, que par exemple le film a été diffusé en DVD, que l'album a été sorti sur un CD, il n'est et d'une pas possible, et de deux surtout pas souhaitable, d'interdire le partage à partir du moment où il est fait entre individus et sans but de profit. Que c'est l'équivalent numérique de se prêter des bouquins, de se passer des cassettes dans la cour de récré, que c'est l'activité de base de propagation de la culture, et surtout, comme on l'a évoqué plus tôt, que tenter d'interdire ça apporterait des mesures parfaitement attentatoires aux libertés fondamentales, qui reviendraient ni plus ni moins à mettre en place la censure des contenus et le contrôle des communications entre individus. Donc ce que l'on dit, c'est que, primo, on légalise le partage, et deuxio, on peut se poser la question de comment favoriser la création à l'ère numérique. Comment financer la création à l'ère numérique? Comment s'assurer que les mécanismes de financement de la création aillent au plus près des jeunes artistes qui débutent et ne soient pas captés par les intermédiaires comme c'est le cas aujourd'hui? Et ça, c'est le reste des propositions que je vous invite à regarder sur le site www.laquadrature.net, rubrique propositions.
Mais justement, sur ces propositions, je n'ai pas trouvé nom de proposition économique. Le modèle économique, de l'exposer.
Dans nos 14 éléments pour la réforme du copyright et des politiques culturelles associées, il y a cette fameuse contribution créative, qui est aussi l'objet d'un livre par Philippe Aigrin, qu'il avait écrit en 2009 ou 2010, et qui s'appelait Internet et création, un petit pied de nez à la loi Hadopi qui s'appelait Création et Internet, et qui a récemment été totalement réécrit dans sa version 2.0 qui s'appelle Sharing, et qui est en anglais. Dans ce bouquin, Philippe décrit par le menu, avec les équations mathématiques, avec les modèles économiques, avec les logiciels libres qui permettent de les simuler et de les démontrer à côté, pour expliquer comment pourrait être prélevée cette contribution créative, comment elle pourrait être répartie, et comment, en se basant sur l'attention qui est portée aux œuvres sur Internet, dans les activités de partage non marchand entre individus, on arriverait de fait à financer la diversité culturelle, à financer un beaucoup plus grand nombre d'œuvres que ce qui est fait aujourd'hui dans les financements mutualisés type SACEM, redevance copie privée, CNC, etc. La question des modèles économiques, c'en est une autre. Les modèles économiques, j'aurais presque une approche libérale là-dessus, dire la question des modèles économiques, c'est une question économique, c'est une question de marché. C'est les artistes, les auteurs qui ont aujourd'hui, grâce à un Internet libre et ouvert, tant qu'on a entre les mains un Internet libre et ouvert, la possibilité d'expérimenter Et on voit avec le crowdfunding, Kickstarter a levé, je crois, quelque chose comme 700 millions de dollars pour l'année 2011. C'est 300 millions de dollars qui ont servi à financer plus de 8000 films juste pour 2011. Et Kickstarter n'est qu'une des nombreuses plateformes de crowdfunding. En France, il y a Ulule, il y a KissKissBankBank, il y a... comment s'appelait l'autre ? Enfin, il y en a des dizaines. Donc c'est, le crowdfunding lui-même est un des nombreux modèles en cours d'expérimentation. Donc en tout, ce sont des milliards et des milliards de dollars et d'euros qui sont déjà aujourd'hui dépensés par le public pour financer la culture et la création qu'il aime. Donc cette question, moi j'ai tendance à dire, les business models, ça va très bien, merci pour eux. La seule chose, c'est qu'on a besoin d'un internet libre et ouvert, on a besoin de la neutralité du net, on a besoin de garantir ces conditions permettant d'expérimenter avec les nouveaux modèles économiques. Mais tout est globalement sur la table. Après, ce dont on parle ici, c'est des modèles mutualisés de financement de la création. Alors certains, de très mauvaise foi, parmi nos adversaires, hurlent à la mort, hurlent au communisme, au kolkhoze, au dirigisme, quand on va parler d'un financement mutualisé comme la contribution créative. C'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, car eux, en général, sont dépendants de modèles mutualisés, comme ceux de la gestion collective, comme ceux de la redevance pour copie privée, comme ceux du Centre National de la Cinématographie, etc. Et que les modèles mutualisés de financement de la création existent depuis, je ne vais pas dire depuis la nuit des temps, mais existent depuis très longtemps. Et que notre proposition à la matière ne fait que prolonger cette logique. La musique à la radio aussi, c'est un mécanisme mutualisé du financement de la création. Il serait impensable d'imaginer qu'une radio demande l'autorisation avant de passer chaque morceau de musique. Donc on dit non, vous avez l'autorisation, mais 4% du chiffre d'affaires est reversé à la gestion collective. Alors après, on peut grandement critiquer la gestion collective et les mécanismes de répartition de la SACEM et sa gestion absolument infecte et ses salaires disproportionnés, etc., etc. Mais ces mécanismes mutualisés existent, et ce que l'on propose, c'est d'adapter ces dispositifs de financement mutualisé de la création à l'ère numérique, de les adapter aux pratiques culturelles d'aujourd'hui qui sont celles basées sur le partage.
Alors je rappelle pour les auditeurs les trois grands non-thèmes de vos propositions, les droits de l'homme dans la société numérique, l'accès à un internet libre et ouvert, et le partage de la culture et de la connaissance. Tout cela évidemment sur le site de la Quadrature du Net. Une dernière question, Jérémy Zimmermann, avant de terminer cette série. Parfois je me dis qu'on est en train de vivre quelque chose qui a déjà plus ou moins été vécu avec cette question d'Internet, qui serait peut-être les années, fin des années 70, début des années 80, avec ce qui a été les potentialités qu'ouvraient les radios pirates. Et puis cet énorme boom, grand moment de désenchantement. Non, est-ce qu'on n'est pas un peu dans cet moment de rejouer une utopie qui était jouable avec ces radios libres, ces radios pirates, et que finalement, on ne va pas avoir un énorme retour de bâton, une grande répression du web.
Alors c'est très intéressant comme question. C'est d'autant plus amusant que Philippe Aigrin, dont je parlais à l'instant, qui est également cofondateur de la Quadrature du Net, était fer de lance du mouvement des radios libres dans les années 80. Et même avant les années 80, et Lawrence Lessig décrit ça très bien dans son ouvrage passionnant Le futur des idées, c'est carrément au début des années 10, quand la radio était inventée, qu'on a vu fleurir comme des champignons, des antennes dans les jardins aux États-Unis. Des dizaines de milliers d'antennes, des dizaines de milliers de radios, la radio mormone du coin, la radio ceci, la radio cela, des trucs culturels, communautaires, religieux, etc. Et du jour où le gouvernement US a déclaré la FCC, la Federal Communication Commission, donc autorité qui a été chargée d'attribuer les licences, de ce jour-là, je crois, 5 ou 10 ans après, plus de 90% du temps d'antenne était dominé par trois réseaux commerciaux. Et donc, là aussi, on voyait les radios indépendantes, communautaires, comme le futur de la participation démocratique, comme le futur de l'expression, etc. Et boum, à coup de législation, le gouvernement a refermé la parenthèse. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé en France, avec un mécanisme politiquement très très habile, autour de la personne du président de l'époque, François Mitterrand, où, sous couvert de lâcher un petit peu du lest à ces radios libres, on a en réalité créé un cadre qui a complètement étouffé la liberté dans les radios libres. Il y a une différence fondamentale, qui est quand on parlait de radio, on était dans une ressource rare, dans une ressource finie. Aujourd'hui, les choses ont changé avec Internet. C'est qu'il y avait à l'époque un nombre de fréquences tout à fait défini, donc le nombre de radios qui pouvaient mettre à un instant T était fini. Avec Internet, ça n'est plus le cas. On a une infinité des capacités de participation. Et c'est ça qu'on commence à peine à mettre en œuvre aujourd'hui. Et donc, la grande question, c'est est-ce que les gouvernements, en continuant dans cette voie répressive, vont réussir à faire que cet Internet libre, au bout du compte, soit une parenthèse dans l'histoire? Est-ce qu'ils vont réussir à fermer la parenthèse Internet, ou est-ce que, en tant que citoyen, est-ce que tous ensemble, nous n'allons pas réussir à mettre en œuvre cette responsabilité collective que l'on a autour d'Internet comme d'un bien commun, un bien commun qu'on partage tous, donc sur lequel on a tous une responsabilité? Est-ce que l'on va réussir à mettre en œuvre cette responsabilité collective pour protéger Internet libre et lui permettre de continuer à exister dans sa forme actuelle? Ou est-ce que la puissance cumulée de ces intérêts industriels et de ces gouvernements va fermer la parenthèse de l'Internet libre? Il est à chacun l'occasion de participer.
En tout cas, c'est à nous de le décider. Merci Jérémy Zimmermann, je rappelle, porte-parole de la Quadrature du Net.
L'ensemble de ces chroniques sur le site Radio Grenouille, www.radiogrenouille.com.